enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je voudrais prendre la parole de Dieu et ouvrir avec vous dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Nous allons lire juste deux versets. Le verset 2 et le verset 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Un jour, un homme avait emmené sa petite fille avec lui et il avait repéré la veille un beau jardin avec des belles courges. Et il s'est dit « Je vais en acheter pas cher ». Et il a emmené sa petite fille avec lui, et il a installé sa petite fille sur le muret de ce jardin, et il a dit « Maintenant, tu regardes à gauche, à droite, tu regardes bien que personne ne vienne. » Et la petite fille était installée sur le muret, le papa enjambait le muret, est entré dans le jardin, et commençait sa besogne. Et puis, au bout d'un moment, il se lève et il dit « Jeannette, tu ne vois personne, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. » Et la petite de répondre « Non, papa, mais quoi, Jeannette ?» Mais là-haut, quoi là-haut? Là-haut dans le ciel, Dieu ne nous voit-il pas? Le papa fut interloqué par ce que sa petite fille lui disait et il n'a plus eu le courage de continuer sa besogne. Il s'est relevé, il a pris sa fille, il est parti. Et cet homme a été touché par les paroles de sa petite. Il s'est rendu compte, oui, que peut-être personne ne le voyait, mais Dieu, lui, le voyait. Dieu, lui, nous voit. Il voit tout ce que nous faisons. Il voit tout ce que nous faisons dans le secret. Il connaît toutes choses de notre vie et nous ne pouvons rien lui cacher. Et il nous invite à l'avoir lui seul comme notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu. La conscience de cet homme fut si frappée de cette question qu'il s'arrêta sous l'effet de la crainte de Dieu. Tout d'un coup, il a eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu nous voit. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, dans la version du semeur, il est écrit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » Amen. Il regarde, son regard se promène sur toute la surface de la terre. Pourquoi? Pour accuser, pour condamner, pour frapper? Non. Pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Amen. L'Éternel est mon soutien, il est ton soutien, ma sœur et mon frère. Lorsque l'Éternel est le premier dans notre vie, lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, alors il veille sur nous. Il nous observe pour nous faire du bien, pour nous soutenir dans l'épreuve. Les épreuves nous atteignent, mais l'Éternel est là et il nous soutient, il nous aide, il nous garde, il nous bénit. Un jour l'Éternel parla à Abraham et lui dit « Je suis le Tout-Puissant ». Marche devant ma face et sois parfait. Genèse 17, verset 1. Et je pense que ce que Dieu a dit à Abraham, il nous le dit à nous aussi. Nous sommes appelés fils et filles d'Abraham. Il nous invite à être parfaits. Il nous invite à marcher dans la perfection. Il y a un prix à payer pour être approuvé de Dieu. Nous avons lu ensemble ce que l'Éternel avait dit au pays d'Israël, qu'il a fait sortir d'Égypte, il lui a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Être parfait envers Dieu signifie ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. La véritable question nous est posée. Qui est mon Dieu? C'est une question que je me pose à moi-même et que chacun de nous doit se poser en réalité. Qui est mon Dieu? Quelles sont les priorités de ma vie? Est-ce vraiment l'Éternel qui est la priorité de ma vie? Est-ce vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui est la priorité de ma vie? Ou est-ce que je viens seulement vers le Seigneur lorsque les choses ne vont pas bien? Lorsque j'ai des luttes, des combats? Ou pour arranger mes affaires? Ne nous trompons pas, frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas tromper le Seigneur. Cette question-là nous amène à nous juger nous-mêmes. Qui est notre Dieu? Ai-je la crainte de Dieu? Alors qu'est-ce que la crainte du Seigneur ? Le mot crainte a deux sens. En hébreu, il se dit ira. Ira veut dire respect. Mais il se dit aussi pahad, qui veut dire peur. Ira et pahad ne sont pas du tout la même chose. Ok, on le traduit par un seul mot en français qui s'appelle crainte. Mais il nous faut apprendre à faire la différence. Ira et pahad, en grec c'est phobos, du mot d'où vient le mot phobie en français. C'est pas du tout la même chose. Entre le respect et la peur, il y a une différence fondamentale. Je voudrais souligner trois sortes de craintes, ou peut-être même quatre, qui ne sont pas la crainte du Seigneur. D'abord, il y a la peur naturelle. Par exemple, lorsque je suis sur une route avec ma voiture, une route verglacée, que je perds le contrôle de ma voiture et qu'elle part en toupie, qu'elle se dirige vers un fossé, automatiquement, mon corps se remplit de crainte. Vous êtes d'accord avec moi? Ou alors vous êtes des êtres exceptionnels. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, il y a la glande adrénaline qui se lâche et qui monte dans notre corps, et ça fait un choc. C'est un mécanisme de protection qui nous est donné par Dieu, notre Créateur. Il y a une autre forme de peur, c'est la peur démoniaque. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 nous dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. La caractéristique de cet esprit nous est donnée dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Car la crainte porte avec elle du tourment. » Et cette crainte-là ne vient pas de Dieu, cette peur ne vient pas de Dieu, c'est la peur qui vient du diable. Parce qu'elle n'apporte pas la paix, elle apporte le tourment. Et Dieu est un Dieu de paix. Amen. Il est venu nous apporter la paix. Il est venu nous apporter, eh bien, une assurance, une sécurité. Le démon de la peur tourmente, la crainte de Dieu apporte aucun tourment. Mais au contraire, elle apporte la sérénité, la sécurité, une assurance. Je sais que l'Éternel est vivant, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il est à côté de moi, dans tout ce que j'entreprends. Amen. Est-ce que nous pouvons dire cela? Je sais que l'Éternel est avec moi, dans tout ce que j'entreprends, et je n'accepte pas la crainte qui me tourmente, celle qui vient du diable. Il y a également la peur de l'homme. Dans le Proverbe 29, verset 25, il est écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Et je crois que beaucoup de chrétiens sont liés par la crainte des hommes. Cette crainte ne doit pas exister, parce que cette crainte risque de conduire notre vie et nous ne vivrons pas pleinement la vie que Dieu a préparée pour nous. La crainte des hommes. Que pense un tel de ma vie, de ce que je fais, de ce que je dis? Frères et sœurs, ce n'est pas aux hommes que nous avons à rendre des comptes, c'est à Dieu. Et le fait de craindre les hommes nous empêchera de vivre pleinement notre vie avec notre Seigneur. Il y a une autre peur, c'est une peur religieuse. Moi-même, j'ai connu cette crainte lorsque j'étais enfant. On me disait que si je n'obéissais pas, eh bien, je serais puni par Dieu. Et j'avais une image tronquée de ce qu'était Dieu pour moi. Et j'avais cette peur, Dieu me faisait peur. J'avais pas de respect, j'avais une peur de Dieu. Et puis on accentuait cela par des sanctions. Selon le nombre de bêtises que je pouvais faire, eh bien on me disait de répéter telle et telle prière, 10 fois, 20 fois. Alors vous voyez combien ma conception de Dieu pouvait être fausse. C'est pas cette conception de Dieu que nous devons avoir. Ce Dieu fait peur. Il me faisait peur. Si je marche pas droit, il va falloir que je prie X fois cette prière-là. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu est rempli d'amour. Il nous demande de nous approcher de lui lorsque nous avons péché, lorsque nous avons fauté, de nous tourner vers lui comme nous nous tournons vers notre papa et lui demander pardon, papa. Et Dieu, dans son amour, nous pardonne et nous aide à ne plus recommencer. Connaître la peur, c'est normal. C'est ce que nous faisons malgré la peur qui fait la différence entre l'échec et la victoire. Si vous vous laissez contrôler par la peur, elle vous empêchera d'accomplir votre destinée. La peur engendrera l'inaction. On ne va pas faire telle ou telle chose parce qu'on a peur. On a peur de ne pas réussir, on a peur de se faire mal, on a peur de se tromper. Ça va engendrer l'inaction. L'inaction va engendrer le manque d'expérience. On dit assez souvent dans notre langue française, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de bêtises. Mais avec cela, il n'apprend rien, il n'avance pas et il ne s'épanouira pas. Vous êtes d'accord avec moi? L'inaction engendrera le manque d'expérience et le manque d'expérience engendrera l'ignorance. Et l'ignorance engendrera de nouveau la crainte. C'est un réel cercle vicieux. Et Dieu ne veut pas que nous vivions dans la crainte peur, la crainte pahad. La crainte pahad n'est pas pour ses enfants. La crainte pahad, il faut la laisser. Elle ne nous appartient pas. Ce que nous avons besoin, c'est la crainte respect. La crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Cette crainte est inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements et haïsse le mal. Dieu bénit ceux qui le craignent. Amen. Craindre Dieu, c'est faire de lui notre Dieu, parce que nous le respectons, parce que nous l'aimons. Il est mon Dieu et je me réjouis de le servir. Et de plus en plus, j'ai ce désir au fond de moi-même. Seigneur, je veux toujours te servir plus. Et plus je me donne au Seigneur, plus il me donne du repos. Ça paraît paradoxal, mais c'est une réalité. Parce que c'est Dieu qui fait les choses à notre place. On n'a plus besoin de faire des efforts. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui crée les situations. C'est lui qui nous sert les choses sur un plateau. Nous n'avons plus qu'à suivre et à obéir. Il est notre Dieu vivant. La crainte de l'Éternel doit être enseignée. C'est écrit dans la parole de Dieu. Psaume 34, verset 11, il est écrit là. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » C'est la lecture de la parole de Dieu sous l'éclairage du Saint-Esprit, eh bien, qui nous enseignera la crainte de l'Éternel. Nous en avons terriblement besoin. Regardez avec moi dans la parole de Dieu ce qu'elle produit. Dans Job 28, verset 28, il est écrit « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » La crainte de Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Le respect de Dieu va nous donner cette sagesse et cette intelligence dont nous avons besoin. Plus loin, psaume 19, verset 19, « La crainte de l'Éternel, elle est pure, elle subsiste à toujours. Je respecte l'Éternel, non pas avec hypocrisie devant les autres, mais constamment, dans le secret, chez moi, je respecte l'Éternel. Il me voit lorsque je regarde la télévision et que je regarde n'importe quoi parfois. Il me voit. Alors je ne veux plus être hypocrite, je veux respecter mon Dieu, afin qu'il puisse, eh bien, me purifier toujours davantage et me faire grandir toujours davantage. Proverbe 10, verset 27, il est écrit, « La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » C'est très clair, si vous voulez avoir une longue vie, craignez l'Éternel, respectez l'Éternel. Le fruit de la crainte de l'Éternel, est-il écrit dans Proverbe 22, verset 4, c'est la richesse, la gloire et la vie. Franchement, je ne sais pas ce qu'on pourrait encore attendre de plus. C'est fantastique, ces versets sont extraordinaires. Voilà un petit peu le programme qui est devant nous. Si, du moins, on a envie, on désire du fond de notre cœur, respecter notre Dieu, voir combien notre Dieu est bon, ce respect ira. Et non pas pahad, ira respecter notre Dieu, rentrer en communion avec lui, lui demander son avis. Bien souvent, on agit sans demander l'avis de notre Dieu. Et j'ai appris à demander l'avis de mon Seigneur, et de plus en plus. Et je ne veux pas oublier, quand les choses vont mal, lorsqu'on a des difficultés, des luttes et des combats, j'ai appris à me mettre à genoux, à m'enfermer là où je suis, et demander, Seigneur, viens maintenant, c'est le moment, viens nous secourir. Il y a un moment de tempête, il y a un moment où ça ne va pas, il y a un moment trouble dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple. Seigneur, viens, agis, je vous garantis que ça marche. La crainte de l'Éternel dans la vie de Jésus. Dans Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » On retrouve de nouveau cette caractéristique de la crainte de Dieu, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3, « Il respirera la crainte de l'Éternel. » Jésus-Christ respirera le respect de l'Éternel. Ce qui couronne les particularités de Jésus, C'était sa crainte qu'il avait, ce respect qu'il avait de l'Éternel. Jésus dira lui-même, il le répétait à ses disciples, il a répondu à ses accusateurs. Il disait, je ne fais pas ma volonté, mais je viens faire la volonté de mon Père. Il ne se mettait pas en avant, il obéissait à son Père dans le jardin de Gethsémané. Lui-même, il disait, Jésus, alors que sa fin était proche, pria de cette façon, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 42. Je crois que pour nous aussi, lorsque nous sommes capables de faire cette prière, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, alors je crois que Dieu nous exauce. Amen. Notre problème, c'est que souvent, nous voulons que Dieu nous exauce parce que c'est notre volonté qui prime. Non, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et vous verrez, vous allez expérimenter cela dans votre vie, je l'ai expérimenté souvent. Souvent, la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté. Et il nous emmènera à des endroits ou dans des situations que l'on n'aimera pas. Mais il y a une chose qu'il veut faire, c'est de glorifier son nom. Il ne veut pas nous glorifier, nous. Il ne veut pas nous glorifier, nous, en tant qu'être humain. Il veut glorifier son nom. Alors prions l'Éternel en lui disant, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. La crainte de l'Éternel était également présente dans l'Église primitive. Actes, chapitre 9, verset 31. Il est écrit là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de cette même crainte, de ce même respect de Dieu, de cette même pureté. Plus que jamais. Frères et sœurs, l'Église primitive vivait des miracles extraordinaires. Je bénis le Seigneur parce que nous vivons aussi des miracles ici. Mais je ne crois pas, en lisant la parole de Dieu, que nous sommes encore dans la même dimension de miracles que celle que vivait l'Église primitive, et c'est le désir de mon cœur. Donc il nous faut passer par cette station supérieure qu'est ce respect nouveau que nous devons avoir envers notre Dieu. Vous savez, le monde change, mais Dieu, lui, sa mentalité ne change pas. Dieu reste le même. Donc la pureté qu'il y avait il y a 5000 ans, 2000 ans, reste la même. Alors je suis conscient de la difficulté que nous avons d'apporter l'Évangile aujourd'hui avec un message de pureté. Néanmoins, c'est le commandement que Dieu nous donne. Nous devons enseigner la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel. Dieu ne modernise pas son caractère. Il connaît le cœur de l'homme. Et il sait que le cœur de l'homme, le cœur d'Adam, est le même que notre cœur aujourd'hui, même s'il y a eu des milliers d'années qui nous séparent. Le cœur est toujours le même. Et le caractère de Dieu reste le même. Le respect que nous devons avoir envers l'Éternel, notre Dieu, doit rester le même. Amen. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a l'impression, en regardant ce qui se passe autour de nous, que le respect de Dieu existe de moins en moins. Je ne parle pas dans l'Église, quoique dans l'Église, je suis persuadé que nous avons de grands efforts à faire encore. Mais je suis persuadé aussi que Dieu, par son esprit, va nous emmener à cette stature et à cette maturité. Et je crois que si le Seigneur désire aujourd'hui que nous apportions un tel enseignement, c'est qu'il veut que son peuple grandisse dans sa crainte. Je regarde autour de moi et je me rends compte combien le respect de Dieu a complètement disparu. Et nous sommes, par nos prières, capables d'inverser les choses. Prions pour nos autorités. Moi, je prie pour mes autorités. Je me réjouis lorsque les autorités de notre pays prennent des décisions à l'encontre du n'importe quoi qui se fait dans notre pays. Je me réjouis et je continue à prier pour nos ministres, pour notre président. J'ai été effaré l'autre jour. J'ai regardé les informations le 25 novembre. J'ai été effaré par quelque chose qui m'a outré. Le non-respect de la vie. Qui a donné la vie aux hommes? C'est Dieu qui donne la vie. Jusqu'à présent, les hommes n'ont jamais pu inventer la vie. La vie n'est plus du tout respectée. Je regardais là, je voyais une femme qui avait une soixantaine d'années et qui avait décidé de mourir. On lui avait annoncé qu'elle avait un cancer et après l'annonce de son cancer, elle s'est renseignée auprès de son médecin. Son médecin ne lui a pas donné beaucoup d'espérance de vie. Eh bien, cette femme a décidé de mourir. Et en France, grâce à Dieu encore, mais prions pour que cela n'arrive pas, l'euthanasie n'est encore pas tolérée. Et cette femme a été suivie par des reporters. Cette femme a pris un train avec une amie, est partie en Suisse, et là, à Zurich, elle a frappé à la porte d'une association. Une association qui donne la mort par suicide, ça s'appelle suicide assisté. Le responsable de l'association l'a accueillie, elle a exposé sa requête. On lui a dit, il n'y a pas de problème madame, on a téléphoné à un notaire, le notaire est venu, il a pris ses dernières volontés. On a demandé à cette dame de détruire sa carte bancaire sous les yeux des témoins. Elle a détruit sa carte bancaire, on a fait venir une infirmière qui lui a préparé, devant les caméras de la télévision, qui a préparé un poison mortel. Et quelques minutes après, elle buvait ce poison et cette femme mourait. Donc on a eu quand même assez de pudeur pour ne pas filmer la mort. Mais ensuite, on a continué à filmer ce qui se passait dans l'association. À partir de ce moment-là, on a appelé des médecins qui constatent la mort. On a appelé la police pour faire simplement une enquête normale. Et puis voilà, l'affaire est classée. En toute légalité, une association qui vous aide à vous suicider. Du n'importe quoi. J'étais complètement troublé. Ce qui m'a effrayé le plus, c'est lorsque le journaliste a demandé au directeur de cette association, en lui disant, mais monsieur, mais ne pensez-vous pas que, eh bien, on aurait pu aider cette femme autrement? Il disait, mais nous devons respecter la volonté de toutes les personnes. Une autre question que le journaliste a posée dit, quel est l'âge de la personne la plus jeune qui est ainsi morte? Ce directeur disait, ben, la personne la plus jeune avait un peu plus de 30 ans. N'importe quoi. Plus de respect de la vie, plus de respect de Dieu. Et nous sommes là pour annoncer, nous, la bonne nouvelle de l'Évangile, pour que ces choses-là cessent, pour que le péché cesse, pour que la malédiction s'arrête sur nos pays. La crainte de l'Éternel se recherche comme un trésor. Job, chapitre 4, verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance? N'est-ce pas ton intégrité? La crainte de Dieu est mon soutien, j'ai déjà dit tout à l'heure. Elle est mon espérance, elle est aussi mon intégrité. Le respect de Dieu va faire de moi un homme intègre. Amen. La crainte de Dieu ne viendra pas de manière automatique sur notre vie. Il faudra la chercher, la demander au Seigneur de tout notre cœur. Il nous faudra du courage. Le courage de changer nos habitudes, frères et sœurs. On a de mauvaises habitudes que Dieu veut changer, mais il faut que nous ayons le courage de le faire. Le courage de ne plus accepter nos échecs. Dieu nous dit qu'il a fait de nous un peuple de vainqueurs, pas un peuple de perdants. Nous devons être victorieux en Jésus-Christ. Les échecs ne sont pas pour nous. Ayons le courage de changer de voie. Sortons de nos vieux travers. Mais changeons de vie. Changeons. Tu vis l'échec dans ta vie? Pose-toi la bonne question et change de direction. La bénédiction dans notre relation avec le Seigneur ne viendra pas toute seule. Nous avons des efforts à produire et parfois c'est très dur. Parfois, on est dur comme de la pierre. En Italie, là où j'étais, c'est le secteur où on extrait le marbre des montagnes, des Alpes Apuanes. Et le frère chez qui je logeais travaille justement dans le marbre. Et il m'a dit, ça t'intéresserait de visiter les carrières? Et j'étais très heureux d'être monté avec lui, parce que de tout ce qu'on m'avait expliqué, lui, il m'a expliqué quelque chose qui est resté gravé dans ma tête. Pour extraire le marbre, les blocs de marbre qui font plusieurs tonnes, on n'utilise jamais d'explosifs. On découpe le marbre à même la montagne. C'est un travail extraordinaire, c'est fantastique à voir. Et ce frère m'expliquait que jusqu'au siècle dernier, on exploite ces carrières depuis le temps des Romains. Et je me demandais, mais comment qu'ils faisaient pour extraire? Aujourd'hui, on a des moyens modernes. On coupe la pierre avec des fils de diamants, c'est sophistiqué. Mais dans le temps, comment qu'ils faisaient? Il m'a dit, viens, je vais te faire voir. Il m'en est à un endroit où il y a un petit musée. Et il m'a dit, pendant plus de 2000 ans, on a travaillé comme ça. On avait une simple lame de scie, vous savez les grandes scies qu'utilisaient nos bûcherons à deux dans le temps pour couper les arbres. le même genre de scie, mais sans dents. Simplement une lame de fer sans dents. Je dis, mais avec ça, mais qu'est-ce que tu veux couper une pierre avec ça? Il dit, non. On sciait la pierre avec ça. Mais je dis, mais la pierre est dure, elle est aussi dure que le fer. Il me dit, mais regarde ce qu'on faisait. On prenait cette lame avec deux hommes et on la passait sur la pierre. En même temps, on arrosait la pierre et on mettait du sable. Et c'est le sable qui lentement usait la pierre et on arrivait comme ça à couper des blocs énormes de pierre. Ça mettait beaucoup de temps. Il y avait des centaines et des centaines d'hommes qui travaillaient dans la montagne. Il m'a dit, tu sais, à la fin du siècle dernier, il y avait une crise terrible en Italie. Les gens n'avaient rien à manger. Et alors, les ouvriers montaient dans la carrière de marbre pour aller travailler, pour aller extraire les pierres. Et ils étaient toujours à deux pour tenir la scie. Et puis un jour, eh bien, les hommes étaient arrivés à avoir un salaire, un hareng, pour deux personnes. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ces hommes, lorsqu'ils recevaient leur salaire pour aller acheter ce hareng, eh bien, ils se mettaient en face de la scie. Il y en a un qui disait un hareng, l'autre il disait pour deux. Un hareng pour deux. Et comme ça, ils battaient la mesure. Il y en a deux qui ont commencé à faire cela. Et ensuite, eh bien, à gauche, à droite, les gars commençaient à battre la mesure de la même manière. Et ça fait que un jour, dans toute la montagne, on entendait ce chant « un hareng pour deux, un hareng pour deux ». C'est beaucoup plus beau en italien. Et le patron qui entendait ce chant a été touché au fond de son cœur. Il a augmenté le salaire de ses hommes. Et il continuait à chanter toujours la même chanson. Alors le patron un jour a dit « mais arrêtez de chanter ça, maintenant c'est plus un hareng pour deux, c'est un hareng pour un ». Mais alors les hommes lui ont dit mais ça va pas, on peut pas battre la mesure avec un hareng pour un, ça marche pas ». Ce qui m'a frappé, c'est que ces hommes, plutôt que de se lamenter avec leur demi-hareng, ont commencé à chanter une espèce de louange. Ils ne se plaignaient pas et le patron voyait que le travail avançait beaucoup plus vite. Ça réjouissait le cœur du patron, ça réjouit aussi en même temps le cœur des ouvriers qui recevaient plus de salaire. Frères et sœurs, dans les difficultés de notre vie, il ne faut pas nous lamenter. Il faut au contraire nous réjouir de ce que Dieu nous donne, en sachant que ce que Dieu nous donne est une grâce et qu'il nous fait grandir dans cette grâce et nous en donnera plus. Dans ma vie, je me réjouis de ce que Dieu me donne. Même si j'ai mal au dos, je ne me lamenterai plus. Je veux me réjouir parce que je veux travailler quand même pour mon Seigneur. Et je veux louer mon Seigneur parce qu'il est grand, il est puissant. Nous devons nous faire violence. Je vais conclure. Rapidement, l'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Il ne laisse plus de place au Dieu créateur. Les hommes qui n'ont pas Dieu dans leur vie ont peur de la fin de leur vie. Ils ont peur du néant et c'est pour ça qu'il y a tant et tant de suicides. Aucune espérance. Il doit réapprendre la crainte et l'amour de Dieu et c'est à nous de leur enseigner la crainte et l'amour de Dieu. Dieu cherche des gens dont le cœur tout entier est à lui. Des gens qui ont fait de lui leur Dieu. Amen. C'est cela que Dieu veut. Des hommes et des femmes qui ont fait de lui, de l'Éternel, le Dieu des armées, leur Dieu personnel. Quand il trouve de telles personnes, il manifeste sa grâce divine en elles. Choisissons ensemble d'être ces personnes, frères et sœurs. Plus nous serons nombreux à faire de l'Éternel notre Dieu, et bien plus l'autorité et la puissance de Dieu va se révéler au milieu de nous. Gloire à Dieu. Nous ne cédons jamais à la pression d'un monde sans Dieu qui nous influence dans notre mentalité. Malgré les événements, Dieu est sur son trône et il règne. Malgré ce que l'on peut voir, soyez tranquilles, Dieu voit tout, il connaît tout. Peu importe la situation géopolitique de notre monde actuel, Dieu connaît tout, il est sur son trône, il voit tout. Même si pendant un temps ça paraît être un désastre pour nous-mêmes, Dieu voit tout et il interviendra au temps voulu, au moment voulu. Frères et sœurs, croyons ensemble à l'efficacité et au progrès de l'Évangile dans ce monde. Je termine simplement par ce psaume 145, verset 19. Il est écrit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Amen. « Il entend leurs cris et il les sauve. » Il entend le désir de ceux qui le craignent. Il vous entend, mes amis. Il nous entend, il m'entend. Et lorsque je crie à lui, il me sauve, il m'aide et il me secourt. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.